بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاء الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre ce soir le programme qu'on avait commencé il y a plusieurs mois, après deux mois d'interruption aussi, il faut signaler. Allah facilite la reprise, inshallah. Et donc, on s'était arrêté avant le mois de Ramadan sur la situation des gens le jour de Qiyam. Quelle sera la situation de celui qui n'a pas la foi de son cœur et quelle sera la situation du croyant? Et l'objectif, salam alaikum. L'objectif, c'est d'avoir une idée de la position du croyant le jour de Qiyam. Quelle sera la facilité qu'Allah Rabbul Izzah accordera au mu'min, à l'homme qui était pieux de ce dunya, quelle sera sa position le jour de Qiyam. Et pour développer ça, on avait pris le plus bel exemple, on pourrait dire, un des hadiths qui décrit, on pourrait dire le mieux, la situation des gens heureux, le jour du mahshar, le jour de la résurrection. C'est le fameux hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyam. Yawma la dhilla illa dhilluh. Le jour n'aura pas d'autre ombre, d'autre endroit ombragé, si ce n'est le trône, l'ombre du trône d'Allah azza wa jal. Ce qui veut dire que ces personnes, ce sont les élus, les gens les plus aimés par Allah azza wa jal. On expliquait ça dans un autre programme dans Riyad al-Salihin et qui rejoignait un petit peu le thème de ce soir. On expliquait que sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, il n'y aura pas la place pour toute la Ummah. C'est pas toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. La wallah. Ce seront uniquement des gens qui seront choisis, qui auraient été choisis par Allah Azza wa Jal, qui auront été élus et choisis par Allah. Il y a des personnes qui, durant leur vie, ont développé des sifat, des qualités. Et lorsque nous parlons des sifat, des qualités, qui étaient celles des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, sans le moindre doute, et des pieux prédécesseurs, l'objectif n'est pas juste une contemplation. L'objectif n'est pas juste d'expliquer, ce n'est pas une narration. On dit voilà, telle personne a fait ça, telle personne a fait telle bonne action. L'objectif, c'est de réaliser que des êtres humains qui vivaient comme nous, avec une famille, avec des enfants, avec un travail, qui devaient consacrer du temps à leur dunya, n'ont jamais oublié le din, n'ont jamais oublié le Rabb, le Seigneur. Et ils ont développé de telles qualités qu'Allah Azza wa Jal a été satisfait d'eux et Allah leur a accordé ce rang qui est inestimable, qui est indescriptible. Car dans ce hadith, il est juste stipulé qu'ils seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, quels seront les bienfaits? Quel sera leur état d'esprit? Quelle sera la tranquillité qui va habiter leur cœur? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Et ainsi de suite. Il n'y a pas de description. Il n'y a pas de description parce que quand on parle de l'au-delà, quand on parle de ces bienfaits qu'Allah accorde aux khawas, à des gens qu'il aime, les descriptions ne serviraient à rien. Parce qu'on ne peut pas réaliser quelle sera la tranquillité, la quiétude, la raha, la tama'nina qui va habiter le cœur de ces gens qui, lorsqu'ils seront appelés sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, ils vont réaliser qu'ils ont été élus, choisis parmi toute la création d'Allah et que donc Allah les a agréés et que tout ce qui va s'enchaîner comme étape se sera facilité succès après succès. C'est vraiment les personnes les plus admirables et le but c'est d'essayer de développer leurs qualités. On ne va pas être long ce soir, on va faire 15 minutes ou 20 minutes maximum. On s'était arrêté avant le mois de Ramadan sur les gens rajulani tahabba fillah, les gens qui s'aiment pour Allah. Et pourquoi est-ce qu'on aurait pu zapper ça? Parce que juste après, il y a une thématique qui est très intéressante, très importante et on pourrait dire que c'est la thématique qui doit intéresser un maximum de personnes, surtout dans une époque corrompue comme la nôtre, dans un endroit où le fitna est aussi muntashir, est devenu général. C'est Rajulun da'athum ra'a, il a akhir al-hadith, c'est la personne qui reçoit des avances d'une belle et jeune femme et qui a la possibilité d'assouvir ses passions charnelles avec cette femme, mais qui va refuser. Il va dire non à Shaitan, non à son nafs,
uniquement par amour et par crainte d'Allah. On pourrait dire que c'est vraiment le sujet qui nous intéresse le plus. Parce qu'il n'y a pas un jour qui ne passe sans qu'on reçoit, sans qu'on ait victime des waswasas, des insufflations du diable, ou alors des appels des shayatin al-insi wal-jin. Tout ce qui nous appelle vers l'adultère, vers les choses qui sont haram. Surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Mais on veut s'attarder sur les gens qui s'aiment en Allah. Parce que c'est vraiment une qualité qui a, sans porter de jugement, mais qui a quasiment disparu. Dans toutes les catégories de croyants, et Allah est le seul juge, on ne peut pas dire lui c'est pieux, lui c'est moins pieux, non. Mais dans toutes, même parfois les familles, dans toutes les tabaqas de la société, on se rend compte que les relations restent superficielles. Et que même au sein d'une même famille, pourquoi est-ce qu'on dit al-hubbu fillah? C'est-à-dire que des gens qui s'aiment pour Allah, même s'ils n'ont aucun lien de parenté. Parce que ce qui veut dire, par compréhension inverse, que quand on a des liens de parenté, des liens de sang, la question ne se pose même plus. Lorsqu'on est uni par le sang, lorsqu'on est frère, soeur, tonton, neveu, nièce, papa, fils, grand-père, petit-fils, il est tout à fait normal d'avoir un muhabba complet, total, engagé. L'amitié, l'amour qui doit exister entre les membres d'une même famille, c'est comme si qu'il n'y a même pas besoin de décrire ça, c'est quelque chose d'inné. Mais même ça, c'est perdu de nos jours. Même ça, Wallahu musta'an, c'est perdu. Il nous est arrivé dans certains endroits où quelqu'un entend les programmes, vient nous dire que, s'il te plaît, la prochaine fois, parle de la relation entre le fils et son père. L'importance que l'enfant doit donner à son papa, malgré l'âge de l'enfant et malgré l'âge de son père. Parce qu'il m'a dit, dans tel endroit, vous voyez, il y a telle personne, le papa et le fils ne se parlent plus depuis fort longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué profondément. Je n'imaginais pas, vous dites dans quel pays vous vivez, oui, mais quand même, je n'imaginais pas qu'un fils puisse arriver à un tel degré de rupture, d'animosité, pour ne pas dire de haine, envers son géniteur, son père, son papa, pour qu'il décide de ne plus l'adresser la parole nihaïen du tout. Pour moi, c'est inhumain. Yani, là, ce n'est plus une question de din, de religion, c'est une question de sentiment, c'est une question de nature humaine. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un m'a interpellé il y a quelque temps concernant des membres d'une même famille qui, mashallah, ils ont bien réussi dans leurs affaires. D'accord? Je ne vise personne, il y a plein de gens qui ont réussi, alhamdulillah. Il dit que ces gens, ils disent que au sein de la famille, on est frères, il n'y a pas de souci. Mais dans le monde du travail, business is business. C'est-à-dire que si tu as empiété sur mon travail, je te casse, je te détruis. Père, fils, tout ça on oublie. Dit le fils est prêt à casser son papa si il apporte un produit qui va le concurrencer. Il dit que dans le travail, il n'a pas famille. Et je croyais que c'était un exemple où il plaisantait, où c'était une métaphore pour me faire comprendre autre chose. Mais non, c'est exactement ça. Et j'ai retrouvé la personne le mois de Ramadan, il m'a répété la même chose, il m'a dit, il faut faire une intervention là-dessus. Il m'a recité le cas de de certaines personnes. Il m'a dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les relations sont en train d'exploser entre père et fils parce qu'ils s'entretuent dans le travail, dans le business. Je dis, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est hajib. Et donc, sachant qu'on est arrivé à une époque où même, au sein d'une même famille, il n'y a plus d'entente. On ne considère plus les liens de sang, que dire maintenant des liens de fraternité, les liens de foi, de fraternité en islam. Al-hubbu fillah, aimer son prochain pour Allah, uniquement pour Allah. Ce qui veut dire que ce sera un muhabba sans intérêt personnel, ni lien de sang bien sûr, mais ce n'est pas un muhabba avec un mobile comme on dit. Que j'ai muhabba avec cette personne par rapport à telle chose, parce que c'est un muhabba de reconnaissance, ou alors parce qu'il pourra m'apporter telle chose là, wallah. C'est al-hubbu fillah, aimer pour Allah uniquement. Et ça nécessite une qualité qui est essentielle de le dîn. Quelle est cette qualité? Les actions ne valent que par leur al-ikhlas. S'il n'y a pas de ikhlas, si on n'est pas sincère, on ne pourra pas développer ce muhabba. Et voyez comment cette action-là qui démarre du ikhlas, du muhabba, peut être rétribuée par Allah, que la personne qui aura développé ça dans sa vie, il pourra avoir une place privilégiée sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyam. Vous voyez comment la sincérité, dans l'amour entre les frères musulmans, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'aimé par Allah Azza wa Jal. On va voir aujourd'hui une thématique concernant les droits de notre... On avait commencé, je pense, hein, si je ne me trompe pas, on avait parlé de quelques huquq, quelques droits de notre prochain en islam, et on avait dit que concernant le fait d'inviter les gens à la maison pour manger, le fait de donner des choses, ainsi de suite, on avait surtout cité l'exemple de grands ulama. Ça y est, vous avez eu le moustique? Je vois que c'est un combat sans merci, 5 minutes. C'est pas un moustique chikungunya, ça, ne vous inquiétez pas. Donc, on avait expliqué des cas de grands savants, comment est-ce que, mashallah, ils avaient muhabba pour les gens qui venaient apprendre avec eux. Et ils donnaient à manger. On a vu l'exemple également de grands savants qui, lorsqu'ils voyageaient ensemble, lorsqu'il y avait des qafilas, des caravanes, parce qu'avant, les gens qui voyageaient, c'était en groupe, le grand alim, il disait que, ok, vous voyagez avec moi à une condition. C'est quoi la condition? Si quelqu'un se souvient? Hein? Je suis à votre service. C'est axe. Le alim, le grand savant, il disait, ok, on voyage ensemble à condition, c'est moi qui cuisine et c'est moi qui lave les vêtements. Yani, il savait que aider son prochain en islam, faire le khidma de son prochain, c'est quelque chose qui est aimé par Allah. Ça, c'est tawadhu, l'humilité. Ça, c'était le comportement des pieux prédécesseurs. Donc, on s'était un peu étalé là-dessus, parce que c'était quelque chose de vraiment exceptionnel. On a vu l'exemple du cheikh de l'imam Bukhari. Le professeur d'Imam Bukhari, rahimahullah, comment il agissait envers ses élèves. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné à ses élèves uniquement le ilm al-hadith. Il ne les a pas donné uniquement le hadith. Il leur a enseigné le akhlaq, le comportement, et il le mettait en pratique. De ces fades du croyant, on retrouvait chez nos pieux prédécesseurs, les grands savants, les vrais ulama de la ummah. Là, je retrouve sa citation, parce que dans ce kitab, il y a tellement de citations. Là, je l'ai, Abdullah ibn Uthman, qui était le cheikh de l'imam Bukhari, dit « Ma sa'alani ahadun haja » Jamais une personne ne m'a demandé quelque chose, un service, « Illa qumtu lahu binafsi » sans que je m'efforce pour le faire moi-même. Si je pouvais, je le faisais. Si c'était financier, j'essayais d'aider la personne financièrement. Si c'était pas possible, si c'était pas dans mes capacités, je demandais de l'aide à d'autres personnes, mais il fallait absolument aider la personne qui était muhtaj, qui était dans la difficulté. Si personne ne pouvait nous aider, j'allais voir As-Sultan. J'allais voir le chef de tribu, ou alors le roi, le maire, je sais pas comment ils appelaient ça à l'époque, le responsable, Wali ul Amr. Et je demandais, j'intercédais pour qu'il puisse aider cette personne. C'est-à-dire, ça c'était la véritable fraternité, muhabba mawadda, qu'on ne laisse jamais son prochain dans la difficulté. De voir comment ça se passe, si on connaît que quelqu'un des difficultés, il vit faire l'islam parce qu'il s'est demandé de l'aide. Et là-bas, il a fait comme, allons sortir par l'autre porte, parce qu'il est dans le tracaï, là, il a dette et tout, il hypothèque son maison et tout, allons file par là-bas, et ça commence à dire, oh, passe à lui l'argent, et ainsi de suite. Je suis désolé, on caricature un petit peu, mais de nos jours, nous fuyons quand quelqu'un a besoin d'aide, Allah Musta'an. Et donc, on avait vu, subhanallah, tellement d'exemples qui sont plus magnifiques les uns comme les autres, d'autres qui faisaient des économies, hein, c'était le cas de Ibn al-Mubarak, qu'on ne décrit plus, un des grands tabi'in, des générations qui sont venues après les sahaba, hein, avant la paix du hajj, demandez aux gens, man yuridu minkum al-hajj, qui veut accomplir le pèlerinage, et il disait, voilà la somme qu'on s'est fixée, et donc il faisait une caisse commune. Fayakhudhu minhum nafaqatahum. Il faisait donc une caisse commune, et pendant le hajj, il laissait croire aux gens qu'il est en train de faire les dépenses avec cet argent. Mais quand ils retournaient chez eux, ils rendaient. فَإِذَا وَصَلُوا صَنَعَ عَلَهُمْ طَعَامٍ. Quand ils rentraient, ils faisaient un grand repas pour eux. Ça nous rappelle quelqu'un, parenthèse. Hein. Qui c'est qui faisait ça avant? Il y avait un organisateur de hajj à La Réunion qui faisait ça. Allah yarahamhu. Il s'appelait Cheikh Younous Lala, qui est décédé. C'est lui qui nous a tout appris concernant le hajj. MashaAllah, Allah jazi khaira. Allah yunawir qalba, inshaAllah. Qabrahu, je veux dire. Wa qalbahu, aydan, inshaAllah. Et donc, on fait la parenthèse, il faisait un grand repas. Et après, il disait à son khadim de ramener la boîte où ils avaient mis l'argent et il rendait à ces gens leurs biens. C'était vraiment les pieux prédécesseurs, le but c'était vraiment de idhal surur fi qalbi al-mu'min, faire en sorte qu'il y ait de la joie, faire entrer un peu de joie, un peu de bonheur dans le cœur d'un croyant. Chers frères, quand vous voyez quelqu'un qui a des difficultés, même si vous dites que oui, mais lui, il est comme ci, il est comme ça, il ne faut pas lui donner. vous donnez quelque chose, cette personne sourit. C'est déjà une bonne action. Vous avez mis un peu de bonheur, vous avez mis un peu de joie dans le cœur d'un croyant. Qui vous dit que ce n'est pas ça qui vous fait accéder au Jannah? Qui nous dit que ce n'est pas cette action de bonté-là qui nous ouvre en grand les portes du Jannah? Vous savez, le savant dit, ne jamais sous-estimer une bonne action. Moi, je rajoute, ne jamais sous-estimer un péché non plus. Ne jamais, parce que le péché, le tout petit microscopique péché, ça peut être une porte ouverte à un engrenage du second, du troisième, d'une habitude jusqu'à devenir fasiq, jusqu'à devenir addict à ce péché. On revient à ce qu'on sera, si on s'étale, on reviendra plus. Ne jamais sous-estimer une bonne action. Là maintenant, c'est un hadith qui me revient. Ne jamais sous-estimer une bonne action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère en islam, biwajhin, avec un visage souriant. Tu rencontres ton frère en islam, tu souris. Analysez le nombre de personnes que vous faites salam tous les jours, combien de personnes sourient. Ou alors combien il reste de marbre. Regardez comme ça, comme si... Pourquoi il fait mon salam, lui? Pas mon famille, ça. Il y a un sourire. Quand on fait salam à un frère musulman, mes chers frères en islam, c'est déjà une bonne action. Si on devait parler du salam, il y a des gens qui font salam. Déjà, juste ça. Ils te donnent la main et retirent, comme si tu as l'Ebola. Ou tu as, je sais pas quel virus. Pour salam, quand il faisait salam, donnait la main. Et il ne lâche, il souriait. Et il ne retirait pas sa main tant que la personne ne retirait pas sa main. Tout ça, c'est transmission d'amour envers notre prochain. Ça, c'est des choses basiques, ça. Vous voyez, quand on analyse notre dîne, quand le prophète a donné les clés pour accéder au paradis, il a dit, entre autres, afshus salam abaynakum. Faites salam entre vous. Et la suite du hadith, il dit, ou en commentaire, ou dans d'autres hadiths qui se rejoignent, faites salam à ceux que vous connaissez et à ceux que vous ne connaissez pas. Parce que le salam, ce sera le premier geste de muhabba, le premier échange, le premier geste de fraternité envers notre prochain. Allez, on revient. Hadith qui nous intéresse, قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة. Voulez-vous que je vous informe qui sont les personnes qui font partie des gens du paradis? Il a dit que النبي في الجنة والشهيد في الجنة. Il a donné des exemples que les prophètes seront dans le paradis, les shahids, ceux qui ont donné leur vie pour Allah, seront dans le paradis, les véridiques seront dans le paradis, et ainsi de suite. L'enfant qui meurt, comment on appelle ça, le mort-né, sera de le Jannah. Et c'est là le shahid qui nous intéresse. وَالْرَجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمَصْرِ فِي الْجَنَّةِ. La personne qui va rendre visite à son frère en islam, d'une certaine localité éloignée, il fera partie des habitants du Jannah. On se dit que quoi? Aller rendre visite quelqu'un? Oui, bien sûr. Celui qui rend visite, qui garde les relations de muhabba avec son frère en islam, avec sincérité, cette personne fera partie des gens du Jannah. Maintenant, on dit ce muhabba, cet amour pour Allah, on avait vu qu'il y a plusieurs conditions. En tout cas, on avait vu quand on avait parlé de la personne dont le cœur est attaché à la masjid, on a dit, ne croyez pas que c'est un concept très simple, je viens les cinq salats, donc mon cœur est attaché à la masjid. On a développé, on a détaillé à la lumière de la vie des sahaba et des pieux prédécesseurs, on a vu quelle était la vraie signification d'avoir le cœur attaché à la masjid. Maintenant qu'on parle d'aimer son prochain en Allah, il ne suffit pas juste d'aller chez quelqu'un. C'est-à-dire, il y a tous les huquq, tous les droits de notre frère en islam qui interviennent. Tout ce qu'on a déjà cité jusqu'à maintenant. Et là, parmi ces points-là, il y a ce qu'on a cité comme titre, le fait de rendre visite à son frère en islam pour Allah Azza wa Jal. Hadith lequel, hadith Abu Huraira radiallahu anhu, hadith est un petit peu long, rapporté par un muslim et Bukhari, on aurait dû dire, oui, c'est muslim et Bukhari, de lequel, il explique qu'il y avait une personne qui était partie dans un village rendre visite à une autre personne, et en chemin, les anges lui sont apparus, sous un certain aspect, ils ont demandé, où est-ce que tu vas? C'est-à-dire que je vais rendre visite à telle personne. Les anges ont demandé, est-ce que tu as quelque chose à récupérer avec cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret avec cette personne? Il a dit là, illa anni uhibbuhu fillah. Il dit non, j'ai rien à gagner avec cette personne, c'est juste que c'est mon frère en islam. Je vais le rendre visite par amour pour Allah Azza wa Jal. Et là, les anges ont donné cette réponse. Fa inni, il dit l'ange, il n'y avait pas des anges, c'était un ange qui a dit, sache que c'est Allah qui m'a envoyé. Inni Rasulullah ilayk. J'ai été envoyé par Allah pour te dire que anna Allah ahabbaka. Allah te fait dire qu'il t'aime comme toi tu aimes ton prochain. Ajib ça. Quelqu'un qui reçoit cette nouvelle, Allah t'aime comme tu aimes ton frère en islam. Et en commentaire, les muhaddithin, ils expliquent en parallèle, voyez la relation qu'il y a entre ce récit, ce hadith, et le hadith général de lequel le prophète alayhi salatu wassalam incite les croyants à faire preuve de bienfaisance envers le prochain, à avoir pitié de le prochain. Bon, ça me dit que ar-rahama ou yarhamuhum ar-rahman. Sachez, ô musulmans, que ceux qui ont pitié pour leurs frères en islam, Allah aura pitié d'eux. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Ayez de la bonté, ayez de la rahma, de la pitié pour les gens qui habitent dans cette terre, c'est-à-dire pour vos prochains, et Allah aura de la pitié pour vous. Ce qui veut dire que quand on aime son frère en islam, on a de la bonté, on va lui donner son droit, on va le respecter, et tous les autres huquq qui viennent après, il y en a quantité, on aura l'occasion de les citer, inshallah. Quand une personne remplit ses conditions de ikhlas envers son frère en islam, Allah Azza wa Jal va aimer cette personne. Hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit haqqat, ça c'est hadith qudsi, haqqat muhabbati ala al-mutazawirin fi, les gens, les croyants qui se rendent visite par amour pour Allah, ils ont droit à mon muhabbat. C'est-à-dire d'autres hadiths encore qui rejoignent ce sens. Hada. Il y a l'anecdote, il y a différents récits, on ne peut pas tout citer, on essaie de faire une sélection. Abu Muslim al-Khawlani, c'était un tabi'in. Il explique. En fait, l'histoire n'est pas exceptionnelle, parce qu'il reprend le hadith qu'on a cité, mais le contexte est magnifique. Et c'est pour ça que j'aimerais insister là-dessus. Il dit, « Ataytu masjid ahli Dimashq. » J'ai été dans la masjid à Damas. Vous savez Damas c'est où? Vous savez encore c'est où? Allah musta'an, Allah yu'inuhum. J'étais dans la masjid de Dimashq, de Damas. Lorsque je suis entré, j'ai vu une assemblée avec des gens qui étaient assis. C'était, subhanallah, les vieux sahaba, les anciens compagnons. Ce qui veut dire que c'était un peu la fin de la période des tabi'in. Le tabi'in, je rappelle, c'est celui qui a vu un sahaba. Donc c'était les derniers sahaba, les vieux, les anciens parmi les tabi'in. Il dit que, et au milieu d'eux, wa idha shabun fihim, parmi eux, il y avait un jeune homme. Donc, il était beaucoup plus jeune qu'eux. Et quand ils discutaient, à chaque fois qu'il y avait une divergence entre eux, Radduhu ila al-fata, ils demandaient aux jeunes de leur conseiller et ils acceptaient sa décision. Il était étonné. Il y a des anciens parmi les sahaba. Est-ce que vous imaginez cette scène? Des anciens, des sahaba âgés. Imaginez le nour, la baraka qu'il y a de ce genre de majlis. Allahu Akbar. Qu'Allah nous fasse connaître ces majlis de Jannah, inshallah. Ces anciens sahaba, ils discutaient, et lorsqu'il y avait un sujet où ils divergeaient, où ils n'avaient pas la réponse, ils demandaient à ce jeune. Et c'est le jeune qui lui a donné tawjih. C'est le jeune qui donnait des réponses. J'ai demandé à une personne de l'assemblée, man hada. Il était étonné, il dit, mais c'est qui ce jeune-là qui donne les informations, hein, qui apporte un jugement à ces anciens sahaba? Il dit que ça, cette personne, c'est Hada Mu'adh ibn Jabal, qui faisait partie des gens qui avaient le plus de connaissances sur le halal et le haram. Un des plus grands faqih de la Umma, un des plus grands spécialistes du fiqh, de la jurisprudence islamique. Et le récit est long. On va résumer, on va arriver à la conclusion qui nous intéresse. Donc, Abu Muslim al-Khawlani dit, j'ai fait ma prière. Il a cherché plusieurs salats, il n'a pas pu le voir. Il dit, quand je l'ai trouvé, j'ai fait ma salat. Ensuite, je me suis rapproché de lui. Il a dit que, ô Mu'adh, inni uhibbuka fillahi ta'ala, sache que je t'aime pour Allah. Et là, Mu'adh a dit, kayfa qulta, répète ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit, inni uhibbuka fillah, je t'aime pour Allah. Et là, Mu'adh radiallahu anhu dit que, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, المتحابون في الله, ceux qui s'aiment pour Allah, على منابر من نور, seront sur des chairs de lumière, في ظل العرش, à l'ombre du trône d'Allah عز وجل, يوم لا ظل إلا ظله, le jour il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est l'ombre du trône d'Allah عز وجل. Donc multitude de hadiths. Ce récit là, Il n'est rapporté par Imam Ahmad. Et les hadiths qu'on a cités avant, de Bukhari, de Muslim, et ainsi de suite, quantité de récits de hadiths qui vont dans le même sens que celui qui arrive à développer un muhabba sincère pour son frère en islam, il sera honoré par Allah Azza wa Jal le jour de Qiyamah. Maintenant, si une personne dit que oui, mais je suis trop occupé. Je suis trop occupé pour aller rendre visite à des gens et tout. Les gens n'auront même plus visite à la famille. Allah Musta'an. On ne rend quasiment plus visite à la famille si ce n'est le jour de Eid de Bakrid. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Allah Musta'an. C'est une réalité de la société. Est-ce que quelqu'un peut prétendre être trop occupé et il n'a pas le temps de rendre visite? Tout de suite, on va dire que c'est impossible. Et on va citer l'exemple de Omar al-Farouq, radiallahu anhu, qui était le deuxième calife de l'islam. Y a-t-il un homme plus occupé que Omar, qu'un calife? Abadan. C'est celui qui est responsable de l'empire musulman. Omar radiallahu anhu dit que لقد احببت في الله عز وجل الف اخ كلهم اعرف اسمه واسم ابيه واسم قبيلته واعرف مكان داره. Il dit que j'aime plus de 1000 personnes pour Allah. J'ai muhabba dans mon cœur pour plus de 1000 croyants. Et chacun de ces croyants, je connais leur nom. Je connais le nom de leur papa. Je connais le nom de leur kabila, de leur tribu, on va dire de leur famille. وَأَعْرِفُ مَكَانَ دَارِهِ. Et je connais exactement où est-ce que cette personne habite. Amir al-Mu'minin, qui fait fikar, qui sait que pour construire mon iman, je dois être bienfaisant envers chaque croyant. Et lui, malgré ses occupations, il connaissait 1000 camarades, 1000 frères en islam, et il connaissait pas le nom de leur papa, et le nom de leur tribu, et où exactement ils habitaient. C'est pas terminé. Muharib, rahimahullah, il dit, en commentaire, a'rifu makana darihi, il voulait dire que alimtu annahu kana yazuruhum wa ya'tihim. Ça, c'est rapporté d'un magnifique livre d'Ibn Abi Dunya. Il dit que Omar, en fait, il connaissait où ces 1000 personnes habitaient parce qu'il les rendait visite. Il faisait en sorte de toujours rendre visite à ces personnes. Donc, est-ce que quelqu'un peut dire que je n'ai pas le temps? Quand on entend qu'une personne, allez, dans notre contexte, au moins, quand on entend qu'une personne est malade, telle personne subit une opération, ou il y a un problème, une hôpital Belle-Pierre, ou il y a Saint-Clotilde, ou je ne sais pas, quel que soit l'endroit où on est, au moins on essaie d'aller rendre visite à la personne à l'hôpital. Et du coup, on va joindre deux bonnes actions. Aller rendre visite à son frère pour Allah et aller rendre visite à un malade, qui est un autre chapitre encore, c'est une action remplie de récompenses. Chers frères, il y a des fois où on se dit que pour obtenir le Jannah, il faut rester dans masjid. Un camarade pour y arriver là-bas, un gros cafard, c'est un méga, ça. Montreuil, Allah Musta'an. Un peu. Non, il ne gêne pas. Non, il y a tout le temps ça. Tout le temps qu'il en a un cafard. Je ne sais pas s'il a tiré les cancres là. Tu ne veux pas aller dans masjid. Hein. Bref, on revient à ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Il y a parfois, on se dit que pour être un bon croyant, un bon mu'min, il faut faire telle chose. Il faut faire tahajjud, qiyamul layl, il faut donner. Oui, oui. Tout ça, c'est important, sans diminuer l'importance des actions que nous considérons comme étant correctes. Mais la race n'y est trappe qu'on collecte la main. Ah, malgache, hein. Courage, ah, mashallah. Mais on oublie parfois que le muhabba qu'on a pour notre frère en islam, l'amour qu'on va donner à son prochain, c'est peut-être ça qui nous ouvre la porte du Jannah. C'est peut-être ça qui nous fait accéder au paradis. Et cette qualité-là, les sahaba l'avaient développé dès les premiers jours de Al-Madina. Quand on parle de mu'akhat, lien de fraternité. Pourquoi est-ce que le prophète, dès qu'il est arrivé à Madina, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose. Hein? Avant le pacte. Première chose arrivée à Madina. Oui, la première action. Construction de la masjid. Parce que masjid, rien ne peut se faire sans masjid. La umma ne peut pas exister et ne peut pas cohabiter sans qu'il y ait un masjid. Et là, les savants disent, réfléchissez aux musulmans, est-ce que la salat n'est pas autorisée ailleurs? Est-ce que la salat n'aurait pas pu être faite dans un endroit, un terrain vague, comme le musalla, le hidga de l'Al-Fitr? Bien sûr que oui. Mais la masjid, la construction de la mosquée, est essentielle, certes. Pas essentiel, est important pour la prière, oui, mais c'est également un lieu de rencontre. As-salam al-jama'a. C'est quoi jama'a? Le groupe. La notion d'union, de groupe, est essentielle de le dîn. C'est pour ça que l'individualisme, hein, le fait que chacun pense pour soi, et ainsi de suite, ça c'est des sifats qui sont contraires à l'éthique du musulman. Quand on dit salat ma'al jama'a, c'est un imam, et autant de muqtadis qu'il peut y avoir. Il peut y avoir 3, 20 ou 50 000. Mais ils suivent un imam. Ça c'est symbolique du muhabba qu'il doit y avoir entre les croyants et le fait qu'ils vont obéir à Allah en suivant le Amir al-Mu'minin, celui qui a l'autorité sur eux. Et donc la masjid c'était un lieu pour l'adoration d'Allah, mais c'était un lieu également où les gens qui étaient en difficulté pouvaient trouver refuge. Comment ils s'appelaient ces gens qui étaient pauvres, qui n'avaient pas encore eu de logement? Logement, c'est un grand mot. Ashab al-Suffa. Ils restaient dans la masjid le temps que leur situation se stabilise. Il y a rien de tout ça pour dire qu'on n'abandonne pas un croyant. C'est pas que bon, on est pieux, on fait ça. Bon, mais lui, bon, il dort dans le chemin. Non. On peut pas. Le prophète ne concevait pas qu'un musulman puisse dormir à l'extérieur. Donc il accueillait les gens dans sa masjid. Tout ça, mes chers frères, ça me fait réaliser l'importance de l'union de la Ummah. Et juste après, qu'est-ce qu'il a fait? Le Mu'ahad. Le pacte de fraternité. Sachez que, ô musulmans, vous êtes frères en Allah. L'habitant de Makkah qui vient d'arriver et celui qui l'a accueilli à Madina, vous êtes frères en Allah, vous avez muhabba et vous devez partager ce qu'Allah vous a accordé. C'est des valeurs qu'il a enseignées aux sahaba et les sahaba l'ont gardé. Et quand est-ce que la Ummah connaît les premières difficultés? Après la mort de la porte, lorsque la porte s'est cassée, lorsque Umar ibn al-Khattab est décédé, c'est là qu'il y a eu des divergences. Quand il y a eu ikhtilaf et cassure de la Ummah, pas ikhtilaf, divergence possible. Exemple de divergence, que le prophète dit qu'on va faire la salat dans le village où il devait combattre certaines tribus. Sahaba avait compris que le Asr, même si c'est Kaza, on fait là-bas. Le sahaba dit que non, le prophète a voulu dire ça de cette façon, mais si on est en chemin, on fait le Asr, après on ira là-bas. Le hadith, l'exemple est très connu. Il y a eu divergence, il y a eu d'autres cas où il y avait ikhtilaf. Mais l'ikhtilaf, la divergence, n'a jamais déboucher sur une fracture de la Ummah. Mais quand les hypocrites sont intervenus et ils ont essayé de former, on va dire, d'essayer de renverser le khilafa de Uthman ibn Affan radiallahu anhu avec mille et un mensonges et des faits qu'ils ont comportés qui n'avaient aucun fondement et que des gens de la Ummah, certains ont commencé à écouter un côté et l'autre position. Quand il y a eu la fracture de la Ummah, c'est là que la baraka est partie. Et cette fracture, cette brèche qui s'est ouverte, elle ne s'est plus jamais refermée. Avec les Khawarij d'un côté et les autres groupes que nous connaissons, qui ne font pas partie des Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Donc, l'importance du Muhabba pour Allah Azza wa Jal. On va terminer avec une citation. On a dit qu'on fait 20 minutes. Alhamdulillah, aujourd'hui on respecte notre engagement. Une belle citation de Ma'ruf al, je ne sais même pas comment on prononce son nom, je ne le connais pas, al-Karkhi. C'est pas un hadith, c'est un conseil qu'il donne. Et je trouve ça pas mal du tout. Il dit aux musulmans, marche un mille. Un mille, ça fait combien de kilomètres, ça? Mile? Un kilomètre? Ah, il fait plus qu'un kilomètre, alors. Maintenant, il faut voir en arabe, mille, mille, ça, on va dire que c'est un kilomètre, d'accord? Pour simplifier. Il dit, marche un mille, un kilomètre, s'il le faut, pour faire namaz en jamaat. Ça vaut le coup, même s'il faut marcher un kilomètre. Maintenant, il dit, marche 2 kilomètres, s'il le faut, pour accomplir la salat jum'a, parce que ça vaut le coup. Il dit, marche 3 kilomètres, s'il le faut, pour rendre visite à un malade. Ça vaut le coup. Marche 4 kilomètres, s'il le faut, si c'est pour porter un janaza. Parce que franchement, c'est source de récompense. Et puis, il donne beaucoup, c'est très long, on va finir les 10 000 km ce soir, jusqu'à Fajr. Marche 7 km s'il le faut. Si c'est pour apporter une sadaqa à une personne, pour venir en aide financièrement à quelqu'un. Marche parce que ça vaut le coup, c'est source de récompense. Ô musulmans, marche 8 km s'il le faut, si c'est pour faire la médiation entre 2 personnes qui se sont fâchées. Et là, c'est moi qui rajoute, si en plus, je ne sais pas s'il l'a cité ou non, si en plus c'est une médiation entre un homme et sa femme, c'est source de récompense, de réconcilier époux et épouse qui ne s'entendent plus, bien sûr, réconciliation des règles de la charia. Dis donc, marche 8 kilomètres s'il le faut pour aller ramener l'entente entre deux personnes qui ne se parlent plus, parce que ce sera pour toi grande source de récompense. Marche, ô mon frère en islam, 9 kilomètres s'il le faut, si c'est pour renforcer les liens de parenté. Là, on parle maintenant de famille, les liens de sang. Si quelqu'un il habite Saint-Joseph, d'accord, prends ta voiture, va rendre visite à la personne par amour pour Allah, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta sœur, parce que c'est ton oncle, c'est ton grand-père, et ainsi de suite. Parce que ça, c'est source de récompense énorme. Il dit, ô musulmans, marchez s'il le faut 10 kilomètres, si c'est pour venir en aide à tes proches. Si ta famille est en difficulté, fais parcours cette distance pour les venir en aide, parce que ce sera pour toi source de récompense. Je vous rassure, il s'arrête à 12. Hein. Marche s'il le faut 11 kilomètres, si c'est pour venir en aide à ton frère en islam. Ton frère en islam, là on ne parle plus de la famille. Si ton frère en islam est en difficulté, parcours cette distance pour le venir en aide, parce que ce sera une source de récompense exceptionnelle. Et s'il le faut, amshi bariden, c'est un mot que je n'ai jamais entendu, en commentaire dit al-barid, c'est 12 kilomètres, 12 miles, milan, pour rendre visite à ton frère en islam, parce que rendre visite à ton frère en islam par amour pour Allah Azza wa Jal, c'est une source de récompense que tu n'imagines même pas. Qu'Allah Rabbul Izzah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Et nous allons voir aussi par la suite que quand on dit aimer son frère en islam, c'est pas juste des paroles. Je sais pas où est-ce que j'avais dit. Oui. Oui. Et je pense qu'on va plutôt clôturer là-dessus avec cette citation de Abu Sulaiman Ad-Darani, rahimahullah, qui dit que wala yakununa ikhwanan hatta yatazawaru wa yatabadhalu. Déjà là, ça cadre. Ça donne des limites. On comprend. Ça veut dire quoi? Dit que c'est mon frère en islam, je t'aime pour Allah. Dit que pour les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils disaient à leur prochain que je t'aime pour Allah, c'est pas juste des paroles. C'est pas il dit ça comme ça. C'est que quand il dit à son prochain il l'aime pour Allah, c'est qu'il rend visite à la personne et qu'il cherche la moindre occasion pour le venir en aide. Et ça, on avait dit un petit peu au début qu'on avait commencé ce chapitre, on a dit que aimer son frère en islam, c'est également observer quand on voit qu'il est dans une difficulté, ne jamais attendre qu'il manifeste son besoin, faire en sorte de savoir s'il y a un souci et le venir en aide le plus vite possible. Et faire en sorte qu'il ne connaît pas qui c'est qui est venu à son aide. Et troisièmement, de ne jamais attendre un retour ou une récompense ou un remerciement. Imaginez si la Oumma vivait comme ça. Et je pense que c'est une échelle un peu moins intense. Nos grands-parents, lorsqu'ils sont arrivés ici, il y avait Mohabba comme ça, Jissab, parmi les anciens. Ce que mon père nous raconte, j'ai pas connu mon grand-père, mais ce que mon père raconte par rapport au mode de vie avant, il parle de solidarité, de Mohabba. Les familles s'entraidaient. Parfois, c'était des familles qui vendaient les mêmes choses, qui vendaient des tissus, ou là, ils vendaient... Quoi, ils vont de ta part dessus, chaussures ou je sais pas quoi, mais il y avait pas le mot concurrence. Il y avait. Hein?
Mon grand-père demande toile kaki.
Qui demande quoi?
La toile kaki.
La toile kaki. Vous connaissez quoi la toile kaki, Zot? Non, ben moi non plus. D'accord? Donc, il n'y a jamais de haine, d'animosité, de concurrence là, wallah. Mais je pense que. Au-delà du fait que les gens du Gujarat, et sans être nombrilistes ou autre chose, ils avaient la fibre du commerce, hein, c'est connu. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils ont réussi dans le commerce. En Australie, en Angleterre, c'est des diables ça, dans le commerce, ils sont très forts. Mis à part la souche de commerçants qu'ils avaient, c'était ce muhabba, ce ikhlas, qui était source de baraka, de bénédiction. Alors que les jeunes qui commencent à entrer dans le commerce, ainsi de suite, pourquoi parfois ça marche pas? C'est parce qu'il n'y a pas ta'amun, il n'y a pas muhabba entre les gens. On n'entraide pas son projet. Au contraire, quand on l'a appris que tes bougas, son magasin est ferme, top, son client vient pour moi. Heureux que je récupère son portefeuille, comment on appelle ça, son portefeuille client. Yahri, laisse ce genre de thème pour les fonctionnaires, pour les notaires, pour les je sais pas quoi. Ça c'est rizq. Ton frère, il veut manger. Il veut donner un peu de manger à sa femme et ses enfants. Tu te réjouis lorsqu'il baisse panneau? Et deuxième chose qui a apporté baraka à nos grands-parents, c'est à chaque fois qu'il y avait un peu d'argent qui rentrait, il y avait toujours une part pour la masjid. Il y avait toujours une part pour les projets de din, pour la masjid, pour la madrasa, pour le maqbara, pour ce qui est important pour la umma, pour la communauté. Chose qui est, je ne dis pas que c'est perdu. Il y a encore des gens, mashallah, qui ont cette habitude, mais ça se perd. Si on veut retrouver la baraka, n'écoutez pas les chiffres. N'ayez pas peur du CAC 40, du dollar, du Dow Jones et de tous ces monstres-là. Ils ne vous feront rien du tout si vous avez la protection d'Allah Azza wa Jal. Si on a la baraka, si Allah nous assure la bénédiction, ne regardez pas les chiffres. Et le verset qui nous réveille, c'est « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ça, ça va à l'encontre de toutes les règles d'économistes, de juristes ou de je sais pas comment on appelle ça, des gens qui sont forts dans les transactions. Dit que quelqu'un, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, celui qui a la crainte d'Allah dans son cœur. Dit, mais quelle est la relation de la crainte d'Allah et mon salaire qui tombe à la fin du mois? Il n'y a aucune relation. Non. Mais Allah t'annonce ce qu'il te donne. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. En ce sens, Allah ouvre une porte pour lui, ouvre un chemin. Il fait un chemin pour lui. وَيَرْزُقُهُ, Allah lui accorde sa subsistance, مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, d'une façon qu'il n'imagine même pas. Nous, on a intégré le fait que si je gagne 1000 euros, je peux acheter ça. Si je gagne 2000 euros, je peux acheter ça. Et ainsi de suite. Si je gagne moins, je ne peux pas manger à ma faim. Mais Allah, Rabbul Izzah, promet que celui qui a la crainte d'Allah dans son cœur, Allah lui donne d'une façon qu'il ne comprend pas lui-même. Ce genre de relation avec Allah, de yaqin, de conviction, wallahi, on a besoin de retravailler. Je dis pour moi en premier et pour nous tous. Et le muhabba, l'amour, l'amitié, l'entente au sein de la communauté de la jama'a, mes chers frères, c'est une source de bénédiction. Ce sont des actions qu'Allah aime. Et si on est aimé par Allah, sûrement Allah va nous combler de ses bienfaits. Qu'Allah nous taufiq de comprendre ces quelques paroles. On va peut-être faire encore une séance à ce propos, inshallah. Et puis on va passer à cette autre thématique, celui qui arrive à résister au haram, alors que le haram lui est accessible. Wa ma taufiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.